Radio Okapi. À la présentation du journal, Belinda Bossouma.
Le président Félix-Antoine Tshisekedi en appelle à l'engagement de tous les Congolais pour une union et soutient tous azimuts afin que les méfaits des groupes armés cessent. Il a dit hier, dès l'entame de son discours sur l'état de la nation, c'était devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Peut-être vers la fin de la 13e épidémie d'Ebola qui sévit actuellement à Beni. Le communicateur de l'antenne de Butembo de la division provinciale de la santé rassure la vaccination d'une bonne partie de la population de Beni-Butembo lors de la 10e épidémie d'Ebola a permis de mieux contrôler la nouvelle épidémie. Et puis, la MONUSCO organise le 20 décembre prochain un séminaire d'affaires intitulé « Comment faire des affaires avec l'ONU ?» C'est à l'attention des fournisseurs de la RDC. Pour en parler, nous recevons Hicham Mawal, adjoint du chef de la section achat à la MONUSCO. Madame, Messieurs, bonjour. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé hier aux députés et sénateurs réunis en congrès pour présenter l'état de la nation. Dès l'entame de son discours, la sécurité dans la partie est du pays a pris une bonne partie de son adresse. Le président de la République en appelle à l'engagement des Congolais de tous bords pour une union et soutient tous azimuts afin que les méfaits des groupes armés cessent. Il a ainsi fustigé la campagne de dénigrement de certains Congolais en dépit du fait que les FARDC font bouger les lignes sur les théâtres des combats avec en toile de fond la reprise de plusieurs bastions ennemis et des chefs de bande qui s'y rendent. On écoute le président Félix-Antoine Tshisekedi dans ses propos recueillis par Billy Van Lutumba.
Je voudrais, honorables députés nationaux et sénateurs, fustiger ici cette campagne de dénigrement et de démobilisation menée par une infime minorité de nos compatriotes, jouant à chaque coup des rôles pernicieux d'étouffoirs. Comme pour confirmer que l'insécurité qui règne en cette partie de notre pays les confortait dans leurs entreprises. Je les invite à rejoindre le camp de la patrie, car ce n'est que dans l'unité et la concorde que nous arriverons à vaincre cet ennemi qui a pris l'habitude de semer la désolation dans nos villes et nos villages. C'est l'occasion pour moi de saluer la montée en puissance de notre armée et la bravoure de nos soldats qui, en dépit de toutes ces tractations démobilisatrices, continuent sous le drapeau à donner le meilleur d'eux-mêmes, et ce, jusqu'au sacrifice suprême pour la défense de l'intégrité et de la souveraineté de notre pays. Unissons-nous, chers compatriotes, derrière nos forces de défense et de sécurité, car la victoire finale appartient à la mère patrie, la République démocratique du Congo, que nous ne trahirons jamais.
Et concernant la mutualisation des forces entre les FARDC et l'armée ougandaise au Nord Kivu et en Ituri contre les EDF, Félix-Antoine Tshisekedi promet de limiter dans le temps la présence de l'armée ougandaise sur le sol congolais. Dans ce même discours sur l'état de la nation, le président de la République a dit être conscient que la situation sociale des Congolais n'est pas reluisante et que plusieurs ménages ont du mal à joindre les deux bouts du mois. Félix-Antoine Tshisekedi appelle le gouvernement à accélérer la mise en œuvre des projets à impact rapide et visible. On écoute le chef de l'État dans cet extrait proposé par Alain Rong.
Je suis conscient que la situation sociale de nos compatriotes n'est pas reluisante. Beaucoup de ménages peinent à nouer les deux bouts du mois et n'ont pas accès aux services sociaux de base tels que l'eau, l'électricité, les soins de santé et les transports. Certes, au cours de l'année 2021, le gouvernement a pris un train de mesures en faveur de la population, mais celle-ci reste insuffisante. Je demande donc au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de projets à impact rapide et visible. En effet, dans les secteurs de l'eau et de l'électricité, ainsi que de la santé, pour ne citer que cela, la plupart des projets en cours souffrent d'un manque de coordination et d'une faiblesse de pilotage. La desserte en eau potable de la ville de Kinshasa, les usines de Lemba Imbu d'une capacité de 35 000 mètres cubes par jour, ainsi que de Mbiza Ozone d'une capacité de 110 000 mètres cubes par jour, connaissent des retards préjudiciables à la population.
Et juste après l'adresse du chef de l'État, quelques parlementaires ont réagi au micro de Radio Kapi de diverses manières. Nous vous proposons en premier l'avis de Hippolyte Mutombo-Mbwebwe, sénateur élu de la province de l'Omami et coordonnateur du regroupement politique AAAC, Action des Alliés pour l'amélioration des vies des Congolais, regroupement membre de l'Union Sacrée, et aussi Denis Kambayi, sénateur du Kasaï Central. Les deux élus estiment que le président de la République a répondu aux préoccupations des Congolais.
J'ai été content du fait qu'il a ramassé tous les aspects qui préoccupent la population aujourd'hui. Et il y a cette question de la sécurité qui est pour moi la plus importante parce que c'est d'abord la sécurité avant tout développement. Sans sécurité, il n'y a pas de développement. Mais il l'a bien abordé. Il l'a abordé autant que moi je l'attendais. Il a parlé de la mutualisation de forces avec les pays voisins et il a insisté sur le fait qu'il va lui-même veiller à ce que les autres forces, notamment les forces ougandaises, puissent séjourner le moins longtemps possible et puissent rentrer dans leur pays le temps venu. Et ça donc apaise quelques esprits qui pensaient que les Ougandais sont venus pour occuper une partie de notre territoire ou que ça participait à une certaine sorte de découpage du pays, mais plutôt que c'est juste une mutualisation des forces de moyens pour arriver à un résultat qui a connu la pacification de l'ensemble du pays.
C'est un message responsable et réfléchi par le temps qui court, qui a su peser et surtout voir de réalité du terrain. L'essentiel pour moi, élu du Kasaï Central, c'est Kalaman Bougi, donc quand il en a parlé, ça me suffit.
Pour sa part, Raymond Tchédia, député national élu du territoire de Djougou dans la province de l'Ituri et membre du PPRD, parti de l'opposition, a insisté, lui, beaucoup plus pour des solutions idoines face à la crise humanitaire dans laquelle vivent plusieurs déplacés.
Je reviens d'une mission d'évaluation de l'état de siège à Ituri et dans le Nord Kivu. Je vous informe que la situation sécuritaire et humanitaire dans la province de l'Ituri est vraiment catastrophique. Dans la mesure où, à Ituri, il n'y a pas moins de 90 sites de déplacés. Dans le seul territoire de Ndjougou, il n'y a pas moins de ces 4 sites de déplacés. Et il y a des sites non accessibles, tels que les sites de Ro. Les sites de Ro, il y a des déplacés, des sites de Drodro. Il n'y a pas accès dans ces sites. Le seul site là, à Ndjougou, regorge 60 000 hommes. Et il n'y a pas de route Katoto, Drodro, Boule pour accéder à ces sites, pour aider les déplacés. Imaginez-vous que les mamans, pour nourrir les affaires, préparent la bouillie avec la terre. Donc les affaires dans les sites des ronds mangent la terre comme la bouille par manque de moyens. Le gouvernement, tout d'abord, de vite intervenir à vivre et non vivre pour secourir ces sinistrés. D'ouvrir la route pour atteindre ces sites. Que ces sites soient accessibles par les humanitaires.
Ces réactions ont été recueillies par Billy Vandutumba. Nord Kivu, l'équipe des experts internationaux sur la situation de la RDC est désormais déployée à Goma, deuxième étape de sa mission après la région du Kasaï en 2018. L'annonce a été faite le week-end à Radio Kapi par le président de cette équipe. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Selon Bakre Ndiaye du Sénégal, plus de 60 groupes armés sont encore actifs au nord et au sud Kivu, d'où la persistance des violences ayant poussé le Conseil de sécurité des Nations Unies à décider du déploiement de cette enquête sur les violations des droits humains dans les deux provinces. Bakre Ndiaye, au micro de Gabriel Ouaménia.
Nous sommes ici parce que depuis le mois d'octobre dernier, l'équipe d'experts que le Conseil des droits de l'homme avait mis en place en 2018 en raison de ses préoccupations vis-à-vis de la situation au Kasaï où il y avait l'insurrection du Kabila Sapu, après avoir fait son enquête et mise en œuvre par le gouvernement congolais des recommandations de cette enquête. Cette équipe donc a vu son mandat être étendu à l'ensemble de la République démocratique du Congo. Au Kasaï, nous sommes en train de constater les dégâts et de voir comment faire que ça ne se reproduise pas. Ici, malheureusement, le conflit est en cours. Ce qui nous a dit qu'il y avait plus de 63 groupes armés dans l'ensemble du Kivu et qu'il n'y a pas de jour où des violations graves des droits de l'homme ne se passent et que la situation est même en état de siège. Alors que l'explosion n'est pas retombée, que la violence continue, que les victimes s'accumulent pour qu'on puisse parler de paix, de réconciliation et de prévention, de répétition alors que c'est encore en train de se passer. Je pense que c'est une spécificité qu'on n'a pas eue au Kasaï.
Santé à présent. La fin de la 13e épidémie d'Ebola qui sévit actuellement dans la zone de santé de Beni sera déclarée si aucun nouveau cas n'est notifié d'ici demain, 15 décembre. C'est le communicateur de l'antenne de Butembo de la division provinciale de la santé qui l'a déclaré hier à la presse. Pour sa part, Dr Bernardin Sivioulia, chef du programme élargi de vaccination dans le Grand Nord Kivu, indique que la vaccination d'une bonne partie de la population de Beni et Butembo lors de la 10e épidémie d'Ebola a permis de mieux contrôler la maladie cette fois-ci. Écoutez ses explications au micro de Sadiq Aboubakar.
Pour la 10e épidémie, on avait beaucoup vacciné à Beni. On trouvait beaucoup de personnes qui étaient déjà vaccinées parmi les contacts. Et ceux qui ont fait la maladie, ce sont des personnes qui n'étaient pas vaccinées avant. Alors, c'était moins nombreux. Sur, par exemple, 100 contacts ou contacts de contacts, on trouvait facilement 10 personnes non vaccinées. Mais les prestataires, nous avons été obligés de donner une dose de rappel. C'est la vaccination qui arrête l'expansion de l'épidémie dans la communauté. Les communautés qui sont moins vaccinées présentent plus de problèmes par rapport aux communautés vaccinées. Il y a quelqu'un, je le connais, qui avait transporté un malade qui était à la phase humide de la maladie Ebola. C'était ici à Butembo, il l'avait transporté à Odo pour l'amener à l'hôpital. Mais la personne-là n'a pas fait la maladie parce qu'elle était déjà vaccinée. C'est vrai, on ne demande pas aux gens de s'exposer comme ça. C'est pour cela que ces deux épidémies-là ne nous ont pas fait beaucoup de cas.
Santé toujours, au Kasaï oriental, il n'y a pas une épidémie qui tue les enfants à Mabaya dans le territoire de Kabeakamwanga. Cette affirmation est du ministre provincial de la Santé qui est revenu le week-end dernier de cette partie de la province et ce, après l'alerte faite par quelques habitants. Célestin Kadima dit avoir organisé des consultations gratuites des enfants durant 2 jours pour identifier les pathologies dont souffrent les enfants. Les premières impressions faites après la consultation de quelques enfants indiquent qu'aucune épidémie n'a été détectée sur place. Docteur Célestin Kadima, ministre provincial de la Santé au Kasaï oriental, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
On m'a alerté qu'il y a des enfants qui sont décédés, il y aurait une épidémie. J'ai demandé les médecins de la zone de santé de Kabeakamwanga et quelques infirmiers. J'ai composé une équipe. On a fait une consultation et des examens gratuits. Donc, tout enfant avec des symptômes qui étaient indexés devrait être amené pour prélèvement des échantillons, examens. On a profité pour soigner parce qu'on avait amené aussi un médicament. Mais hier déjà, nous tous, étions en plein travail. Moi-même, j'en ai examiné. Donc, il n'y a pas des enfants malades avec des signes quelconques qu'on était en train d'examiner. Non, nous avons demandé qu'on amène tous les enfants qui ont un petit souci de santé. Ça, on examine, on voit si on peut trouver quelque chose. Il y en a qui avaient malnutrition, malaria, etc. Il n'y a pas de chose de particulier. Ceux qui sont décédés, là, c'est la négligence des parents. Et la plupart n'étaient pas pris en charge à temps. On a fait un appel, mais il n'y a pas une maladie particulière. À Mabaya, l'une des dames qu'on a rencontrées, on dit, nous avons alerté comme ça. Voyant que quand les autorités vont entendre, ils vont venir avec des choses pour distribuer.
Direction la province du Maniema. Désormais, toutes les marchandises qui vont arriver à la gare centrale de Kindu ne peuvent plus échapper au contrôle de la Direction générale des douanes et assises, DGD à Maniema. Hier, le bureau des douanes a été installé et inauguré en présence des directeurs provinciaux de la SNCC et de l'Office congolais de contrôle OCC à la gare de la SNCC par le directeur provincial de la DGDA. Jodel Diongo parle de la concrétisation de l'une des recommandations du forum organisé dernièrement à Kindu par cette régie financière. Jodel Diongo explique le rôle du bureau des douanes au micro de Florence Kizalunga.
Le rôle de ce bureau, c'est, comme le code de douane le définit, c'est une unité administrative chargée de toutes les opérations de dédouanement des marchandises. Il était anormal que l'aérogare ou la gare soit ici, du côté de la SNCC, et que le bureau de douane soit installé au niveau du bâtiment de la direction provinciale. Nous avons donc concrétisé une des recommandations du forum que nous avons organisé pour que le bureau de douane soit installé là où il devait être installé. Qu'il soit très proche du lieu où se trouvent les marchandises. Là où nous étions, ils étaient très loin. Les marchandises peuvent arriver la nuit, les marchandises peuvent sortir sans que eux, ils s'en aperçoivent. Voilà pourquoi il était nécessaire qu'ils soient ici, là où sont les marchandises. C'est ça l'avantage. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les éléments de la brigade qui sont attachés à ce bureau de douane doivent être dans toutes les issues où les marchandises peuvent entrer ou sortir pour les surveiller. Au moins, c'est un élément d'un meilleur contrôle. Mais le souffle vient du trafic. Si le trafic devient plus important, je crois que le bureau pourra être aussi un souffle pour la douane.
Actualité internationale. La CEDEAO maintient la pression sur le Mali. Lors du 60e sommet des chefs d'État à Abuja, l'organisation a exigé le maintien de la date butoir du 27 février 2022 pour l'organisation des élections générales au Mali et menacé de nouvelles sanctions si les lignes ne bougent pas. Une liste des proches des autorités maliennes à sanctionner est en cours d'élaboration. En réaction, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, n'est pas du tout dans une logique d'affrontement avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, confie par téléphone un de ses proches. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, testé positif au COVID-19, à 69 ans, le président sud-africain entièrement vacciné, a commencé à se sentir mal après avoir quitté en milieu de journée la cérémonie officielle en hommage à l'ancien président Frédéric de Klerk. Et puis, le bilan humain continue de s'alourdir aux États-Unis, 3 jours après les violentes tornades qui ont frappé 6 États du Midwest et du Sud. Le Kentucky dénombre à lui seul 74 morts alors que les équipes de secours continuent de chercher des survivants sous les décombres. Au lundi 13 décembre, le dernier bilan provisoire fait état de 88 morts. Le président Joe Biden doit se rendre dans le Kentucky demain mercredi.
L'invité.
Nous recevons Hicham Mawal, adjoint du chef de la section HA à la MONUSCO. La mission onusienne organise le 20 décembre prochain un séminaire d'affaires pour les fournisseurs de la RDC, séminaire intitulé « Comment faire des affaires avec l'ONU ». Monsieur Hicham parle des enjeux, de l'objectif et même de l'intérêt de cette formation d'hommes d'affaires avec Jean-Pierre Elali Coco.
Hicham Mawal, bonjour.
Bonjour.
Quand on parle de la MONUSCO et des Nations Unies, on pense à la paix, à sa restauration et à sa consolidation. Mais un séminaire d'affaires pour le fournisseur, ce n'est pas si courant ici en RDC. Hein. Quel sens donnez-vous à votre initiative et quel est l'intérêt d'un tel séminaire et même de son objectif?
Vous savez, la MONUSCO, comme toutes les opérations de maintien de la paix, n'est pas une entité entièrement autosuffisante. Pour mettre en œuvre efficacement son mandat et aider le gouvernement de la République démocratique du Congo à instaurer une paix stable et durable, la mission a besoin de biens et de services provenant de sources internationales et nationales. Si les groupes ou les troupes, on va dire, de la MONUSCO viennent avec leur propre équipement, par exemple, ils ont néanmoins besoin de nourriture, de carburant, de logement et d'autres formes de soutien logistique qui doivent être achetées sur le marché local. Il est important que les entrepreneurs locaux en soient conscients et comprennent comment la MONUSCO gère les appels d'offres publiques afin de permettre à un grand nombre d'entreprises locales de participer à ces procès. C'est pourquoi nous attachons une grande importance à sélectionner les meilleurs partenaires possibles et de leur donner l'opportunité de bien s'informer et de bien se renseigner sur les opportunités des affaires avec la mission et les Nations Unies en général. Les séminaires d'affaires font partie intégrante des activités d'achat au sein de l'Organisation des Nations Unies. Ils nous aident à mieux connaître le marché local, à mieux collecter, analyser les informations sur les capacités, par exemple, du secteur industriel et l'offre du marché.
Quelles sont les matières de ces séminaires?
Le séminaire s'articulera principalement sur 3 axes. Premier, c'est les chiffres d'achat de l'ONU en général et les chiffres d'achat effectués à l'intérieur de la République démocratique du Congo. La deuxième partie sera l'objet du processus de passation des marchés à l'ONU qui est toujours au centre de toute discussion avec les fournisseurs. Et la troisième partie, c'est le marché mondial des Nations Unies. Et là, c'est quand même une étape primordiale pour les fournisseurs car ça concerne l'enregistrement des fournisseurs sur la plateforme mondiale qu'on met à leur disposition.
La RDC n'est pas suffisamment couvert par Internet. Est-ce que vous avez tenu compte de cet handicap et comment vous allez vous y prendre pour avoir beaucoup plus de fournisseurs potentiels?
Le séminaire devait se dérouler en vérité l'année passée ou même plus. Mais vu la pandémie à laquelle on fait face, on n'a pas pu le faire. Alors, ce qu'on a envisagé, c'est que on a envoyé une invitation à tous les fournisseurs enregistrés à l'intérieur de la République démocratique du Congo. On a aussi donné l'option pour les fournisseurs qui peuvent éventuellement faire face à des difficultés et des défis de connexion sur Internet ou qu'ils n'auront pas les outils nécessaires pour pouvoir suivre le séminaire virtuellement, de venir physiquement à UTEX et d'assister au séminaire dans l'une des salles de conférence. Or, avec l'apparition du nouveau variant et avec les mesures sanitaires, nous avons récemment décidé d'amender notre invitation et d'informer toutes les parties concernées que la participation sera uniquement virtuelle.
L'issue de cette formation susciterait beaucoup d'attentes, voire une ruée de participants vers les offres de marché de la MONUSCO. Comment comptez-vous gérer cette pression? Est-ce que cela ne serait pas un peu en contradiction avec le mandat de la mission?
La réalité est bien que nous soyons un partenaire commercial pour de nombreuses entreprises locales et internationales. Nous ne sommes clairement pas une entreprise à but lucratif.
Il y aura quand même un engouement, monsieur Hicham.
Ah oui, tout à fait. Mais c'est ça aussi l'objet du séminaire. En ce sens, il est essentiel dans ce contexte que nous puissions nous procurer des biens et des services à un prix compétitif. Pour moi, ces ateliers ne sont donc pas en contradiction avec notre mandat, mais plutôt ça constitue un aspect essentiel et primordial, et je dirais même sine qua non pour la mission, pour nous permettre de remplir notre mandat.
Monsieur Hicham, je vous remercie.
Voilà, c'était là notre invité, Hicham Mawal, adjoint du chef de la section achat à la MONUSCO. Il s'entretenait avec Jean-Pierre Elali Coco. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Mouchinj. Alain Ngoy à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.